Vous écoutez un podcast Top Music.
Premier sur la région.
Mon nom est René Biel. Je suis né le 2 septembre 1916, en pleine guerre, à Montivilliers, en Seine-Maritime, une petite ville à 10 km du Havre, dont nous avions récupéré le tramway d'ailleurs. Le Havre, bastion du football français. C'est là que le premier club a vu le jour, vous le savez. Dans cette Normandie, au dynamisme économique certain, de nombreux patrons commencent à mettre des sous dans leurs équipes sportives. Un Alsacien de Sélestat, Lazar Weiler, a une importance majeure. Inventeur, sénateur, visionnaire, il crée une usine ultra moderne pour l'époque avec des procédés industriels novateurs. Il crée les tréfileries et laminoirs du Havre et en 1922, il va fonder un club sportif à son tour, l'US Tréfilerie, qui est même le nom d'un quartier du Havre aujourd'hui. Et c'est ici que je vais signer ma première licence en 1929. De 13 à 16 ans, je fais mes gammes avant de partir à l'US Quevilly, qui voit en moi un attaquant intéressant. J'ai un gabarit, je suis déjà bien charpenté et je n'ai pas peur de ce football plutôt rude des années 30. Je joue en 3ème division dès 1937, j'ai à peine 18 ans et je me frotte déjà à de rudes gaillards. J'attire l'œil d'un autre club un petit peu plus prestigieux, Valenciennes, et me voilà en D2. À 19 ans, je suis encore plus aguerri physiquement. Je joue 31 matchs et je marque 14 buts. Pour moi, comme pour beaucoup d'autres joueurs talentueux, la guerre marque un coup d'arrêt pour ma carrière. Je joue toujours au Havre, à Fives, puis à Lille. Dès l'été 1944, le championnat reprend. Je suis à Lille, un club déjà historique. Je suis en D1 et avec mon mètre 74 et mes 80 kilos, on me surnomme le taureau normand et il vaut mieux ne pas se mettre en travers de ma route. Il faut que je vous raconte un événement. En 1945, je suis sélectionné avec l'équipe de France pour aller affronter la prestigieuse Angleterre de Stanley Matthews à Wembley. C'est un honneur incroyable. C'est un 26 mai et on nous promet le sang et les larmes. À l'arrivée, même si je ne marque pas, nous enlevons un match nul de partout grâce à un but à la dernière minute d'Oscar Eisserer. Aujourd'hui encore, les Anglais refusent de le reconnaître. Cette humiliation, pour eux, est classée comme « war game », match joué en temps de guerre et qui n'entre pas, soi-disant, dans les statistiques officielles. Retour en club. En deux saisons à Lille, je joue 50 matchs et je marque 56 buts, avec une Coupe de France et un titre de champion et de meilleur buteur de D1 dans la poche. Je retourne au Havre une saison avant de m'envoler vers le Sud et le Grand Olympique de Marseille. Deux saisons, 57 matchs, 38 buts et un titre de champion encore avec l'OM. À la fin de cette saison 1949, j'ai presque 33 ans, le temps avance, et je pars en D2 pour jouer à Toulon. 18 matchs, 7 buts, j'ai encore de beaux restes. Et je suis un peu surpris quand un club de D1, Strasbourg, m'appelle dès l'hiver pour me recruter. En janvier, je fais mes balises, direction l'Alsace. Ça me rappelle mon ancien patron. Sur la phase retour, je marque 2 petits buts en 12 matchs. Pas de quoi affoler ni rassurer supporters et dirigeants, je veux bien le croire. Le club peine un peu en championnat, mais finit par se maintenir, c'était l'objectif. J'ai 34 ans et encore un an de contrat. Mais les dirigeants ne l'entendent pas de cette oreille. J'ai rendu service, d'accord, mais je suis trop vieux, paraît-il. Pas de chance pour Joseph Heinz, le président, personne ne veut de moi. Alors vu mon expérience, on me garde quand même dans l'équipe. Et le jeune entraîneur Charles Nicolas va me faire confiance. Premier match contre Nîmes, une passe décisive, une victoire 2-1. Deuxième match au Paris FC, 0-0. Troisième match contre Roubaix, un but et une passe pour une victoire 3-1. Finalement, je crois que les regrets ne sont pas si importants. Je vais encore marquer sur la pelouse du Havre pour une victoire 1-0. Et voilà notre championnat qui débute par 11 matchs sans défaite, 8 victoires, 3 nuls. Malheureusement, s'ensuit une série de 7 défaites consécutives. Incroyable. On est autour de Noël et le club d'Amiens contacte Monsieur Heinz. Ils me veulent. Le Racing est bien content de me lâcher, vu qu'après cette série, nos espoirs de titre sont désormais éloignés. Mais le problème, c'est que je tiens un peu à mon confort. Pas que j'ai quelque chose contre Amiens, hein, mais je suis bien à Strasbourg. J'aime cette ville et surtout ce joli petit appartement dans lequel je vis. Ma décision est prise, je reste à Strasbourg. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est comme ça. Le mois de janvier débute et je vais leur montrer qui je suis. Je vais fermer les bouches, comme vous diriez aujourd'hui. Premier match à Roubaix, je marque, victoire 1-0. En Coupe de France, scénario inimaginable contre Nîmes. Nous sommes menés 3-0 à la mi-temps et nous gagnons 5-3. Allez, Dame Coupe de France a fait son choix. On peut aller loin, j'en suis convaincu. En D1, c'est chaotique, on gagne, on perd, on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais en Coupe, on continue d'avancer. 2-1 contre Tans-les-Vosges, 3-0 contre Annecy. En quart de finale, c'est mon ami Edmond Hahn qui va faire plier Nice, victoire 5-3. Contre Nancy, en demi-finale, Edmond et moi inscrivons les buts de la qualification pour la finale. Les supporters sont aux anges, c'est la 3ème finale du club après celle de 1937 perdue contre Sochaux et celle de 1947 perdue contre Lille. Cette fois, Il faut gagner et vous pouvez compter sur le taureau normand. Voilà ce que je dis aux 5000 Alsaciens qui montent sur Paris au stade de Colombes. En D1, je ne fais pas les déplacements à Sète ni à Saint-Étienne. Je dois me préserver pour parachever ma carrière. Un dernier titre à 35 ans, ce serait quand même beau.
Avec 65 000 spectateurs, M. Vincent Auriol assistait à la finale de la Coupe de France à Colombes où on lui présentait les deux équipes finalistes, Strasbourg et Valenciennes.
Le dimanche 6 mai 1951, nous sommes à l'heure au rendez-vous. Face à nous, Valenciennes. Encore un club qui représente beaucoup pour moi, celui de mon premier contrat professionnel. Le président de la République, Vincent Auriol, nous salue. Plus de 60 000 spectateurs, des petits drapeaux bleu ciel. Et ce ballon qui traîne dans la surface après une vingtaine de minutes. Au point de pénalty, je fais comme toujours. Fort, droit devant. Et c'est au fond.
La balle va filer à l'aile gauche. Sur Anne, qui centre. Vitoff qui renvoie, Biel reprend. Et marque. Le but de Strasbourg est salué par des milliers de fanions bleu ciel.
On contient Valenciennes, Raymond Krug inscrit un deuxième but et en fin de match, j'envoie André Inagui vers le but et il marque en angle fermé 3-0. Un but, une passe, mes coéquipiers me portent en triomphe. Ils savent ce que ça représente et en toute modestie, je pense aussi qu'ils savent ce qu'ils me doivent.
Et c'est le tour d'honneur joyeux et classique d'une coupe qui cette fois va se remplir des bons vins d'Alsace.
René Biel sur les épaules de ses coéquipiers. C'est cette photo qui fera la une des journaux, comme le Miroir des Sports ou les DNA. Le jour de gloire est arrivé, voilà ce qu'on pouvait lire. C'est vrai que pour un club qui existait depuis 45 ans, on attendait enfin un titre, et c'est un peu grâce à moi. Il est temps de tirer ma révérence. J'avais fait ma tête de cochon, et je crois que j'ai eu un petit peu raison. En tout cas, l'histoire, avec un grand H, ne m'a rien fait regretter. Ni à Joseph Heinz, je pense. Ensuite, encore en forme, je m'engage à Blois comme entraîneur-joueur en division d'honneur et puis une dernière pige au Havre chez moi comme un retour aux sources. Entraîneur-joueur encore avec 5 petits matchs mais aucun but. Mon dernier but chez les professionnels restera donc celui inscrit en finale de la Coupe de France avec le Racing. La boucle était bouclée. Je me suis ensuite installé à Blois dans cette ville si accueillante où je me suis investi dans ce club sympathique, notamment en créant un club des supporters. Je reprends même les rênes de l'équipe et je me permets encore quelques buts en Coupe de France à presque 40 ans. On aura connu de belles choses avec cette AAJ blésoise. Et puis, la vie suit son cours. Je meurs une semaine après mon 81e anniversaire. C'est le 8 septembre 1997. Je ne vois pas non plus la fin de l'AAJ Blois qui disparaît en 1999. Mais j'aurai eu le temps de voir la victoire du Racing en Coupe de la Ligue à l'été, emmenée par Jacky Duguay-Pérou. Même à mon grand âge, les souvenirs sont vite remontés. Maintenant, ces souvenirs, ils sont entre vos mains.
Toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait.